Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal présenté par Grace Hamzati Massandi.
Perturbation dans la livraison du carburant hier lundi dans la ville de Kinshasa. Plusieurs Kinois se plaignent d'avoir parcouru des longs trajets pour s'approvisionner. Face à cette situation, le président de l'association des pétroliers privés appelle le gouvernement à honorer ses engagements en couvrant leurs pertes. Nous sommes dans la deuxième semaine de la campagne électorale. Pendant que certains candidats présidents de la République parcourent le pays, d'autres sont encore ici à Kinshasa. Un aperçu général sur la journée d'hier lundi à suivre tout à l'heure avec Pascal Massirika. Et puis, 42 observateurs internationaux sont déjà déployés sur le territoire national de la RDC par la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Pour en parler, nous recevons dans ce journal Stéphane Mondon, chef adjoint de cette mission d'observation électorale. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par la perturbation dans la vente des produits pétroliers, principalement l'essence, observée hier lundi ici à Kinshasa. Interrogé par nos reporters, plusieurs Kinois se sont plaints d'avoir parcouru des longs trajets pour s'approvisionner. Pour certains, la situation a même débuté le week-end. Babel Mpongo Masimango s'est rendu à Kitambo, Bandal, Kassavu, Bulingwala et Gombe et nous signe ses reportages.
Sur terrain, toutes les stations Total vendent de l'essence et du gasoil et pas vraiment de longues files à part à Brikin selon le témoignage des conducteurs. Par contre, chez Engen, seul le gasoil est disponible dans certaines stations. Nous avons été ravitaillés samedi, mais en quantité minime, nous a affirmé un pompiste à Soussimat. Chez Kobuil, par contre, pas de vente. Cela fait 2 semaines que nous n'avons pas été servis, nous a-t-on dit, partout où nous sommes passés. Ceci constitue un manque à gagner, nous a confié un responsable d'une station sous anonymat.
Nous sommes en rupture des stocks et nous ne vendons pas. On nous a dit que bientôt on sera approvisionné, mais jusque là, on attend toujours, on ne vend pas.
Mais là, on vous a vu servir un camion militaire.
Une station, c'est comme un véhicule, c'est-à-dire quand on est au rouge, il y a quand même des stocks de sécurité. On peut aider par exemple quelqu'un qui est en difficulté. Parce qu'on a des stocks de militaires, on peut aider des militaires, on peut aider quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital, mais on ne vend pas au public parce qu'on n'a pas assez de stocks.
Les usagers des engins motorisés se plaignent de cette situation.
J'ai déjà des moods, je suis motard, partout j'ai parcouru là-bas, toutes les stations sont fermées. Il y a que Total qui va aussi là-bas à Brikin. Il y a trop de gens. Ça nous prend beaucoup de temps. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Mais j'ai trouvé encore plein de gens. On est presque 12 heures. On nous a travaillé jusqu'à demi-journée à cause d'essence.
Notez toutefois que le prix du litre à la pompe reste inchangé.
Babel Mpongo Masimango sur la fréquence de la paix. Le gouvernement doit honorer ses engagements en couvrant convenablement les manques et pertes des pétroliers tels que décidés dans la composition de la structure des prix des produits pétroliers. C'est pour mettre fin aux perturbations que cela occasionne dans l'approvisionnement de ces produits stratégiques. Selon le président de l'association des pétroliers privés de la RDC qui l'a dit, c'est depuis plus de 2 ans que l'État paye en date de si ses subventions, ce qui ne permet pas aux pétroliers et de se réapprovisionner en temps voulu. Écoutez Emery Mbachi Bopé, joint au téléphone par Jocelyne Moussaoponde.
Le stock que nous avons ne suffit pas tellement pour approvisionner toutes les stations. Cette situation est une suite logique de la situation que nous avons. Vous savez vous-même, madame, que les produits pétroliers sont subventionnés dans la composition du prix. Il y a une partie qui est prise en charge. Lorsque nous achetons ce produit et que la prise en charge du gouvernement n'est pas payé en termes de pertes et manques à gagner, cela ne permet pas un bon renouvellement du stock et en temps réel. La conséquence, c'est qu'il y a des stations qui ne peuvent plus refaire leur stock. Et pour les cas de nous, les nationaux, les privés, donc on se trouve déjà là dans des situations telles que beaucoup de nos membres ont presque fermé leur station parce qu'ils n'arrivent plus à tenir les coûts.
Et puis, la Fédération des entreprises du Congo FEC a une nouvelle équipe dirigeante à l'issue d'une assemblée générale élective tenue dans la soirée d'hier. Robert Malumba, entrepreneur en bâtiment et travaux publics, est le nouveau président national du patronat congolais. Il a été élu avec 929 voix devant 2 autres candidats en lice. Albert Yuma, qui est resté 18 ans à la tête de la FEC, n'était pas candidat à sa propre succession. Robert Malumba dit placer son mandat de 4 ans sous le signe du dialogue entre les secteurs privés et le gouvernement. Il est au micro de Cynthia Bachizina Bizana.
D'abord, je remercie les dieux tout puissants pour avoir permis que ces élections se passent très bien et sans problème. Et par rapport aux défis, je sais que j'ai des défis énormes qui m'attendent à la tête de la FEC. l'équipe qui vient de sortir a fait ce qu'elle devrait faire. Mais il y a encore aussi beaucoup de choses qu'on doit aussi faire pour arriver à satisfaire nos membres. Vous savez qu'au sein de la FEC, il y a plusieurs secteurs. Je peux dire une vingtaine ou trentaine de secteurs de la vie nationale. Et pour moi, tous les secteurs sont prioritaires. Nous, la FEC, nous sommes des partenaires avec, avec le gouvernement. Donc nous représentons le secteur de l'économie nationale de la RDC. Donc, comme nous sommes élus à la tête de cette fédération, donc on ne peut que rester sur la même table avec le gouvernement et puis on va s'attendre sans problème. C'est une question de dialogue entre le secteur privé et puis avec le public.
Je le disais dans les titres, la deuxième semaine de la campagne électorale a débuté hier lundi. Pendant que quelques candidats présidents de la République parcourent le pays, la majorité d'entre eux se trouvent encore ici à Kinshasa. Pascal Masirika nous donne un aperçu général sur la journée d'hier.
Parmi ceux qui poursuivent leur tournée en province figure le candidat Félix Tshisekedi Tshilombo. Il se trouve dans le Grand Équateur. Il a quitté Mbandaka ce lundi pour se rendre à Bouéndé, au chef-lieu de la province de l'Équateur. Le candidat numéro 20 a tenu un meeting au stade municipal de Ouangata au cours duquel il a demandé à la population de lui faire confiance afin de parachever l'œuvre de la reconstruction de la RDC. Pour sa part, le candidat numéro 3 est arrivé hier lundi à Bukavu au sud Kivu en début d'après-midi. Moïse Katumbi Tshapwe s'est adressé brièvement à la population place de l'indépendance. Dans son adresse, il a évoqué des questions liées aux infrastructures, à l'emploi des jeunes, aux soins de santé et à la sécurité. De son côté, Martin Fayulu Madidi est dans la Grande Orientale. À l'esplanade de la poste à Kisangani dans la Tshopo, le candidat numéro 21 a appelé les habitants à le porter à la tête de la RDC pour leur bonheur grâce à une armée d'au moins 500 000 hommes. Quant à Floribert Anzuluni, le candidat numéro 5, il est encore dans la région d'Ouvira au sud Kivu. Constant Mutamba, le candidat numéro 2, séjourne dans le Grand Bandundu. Il a tenu un meeting dimanche après-midi à Inongo dans la province de Maïndombe. D'autres candidats présidents de la République battent encore campagne ici à Kinshasa.
Dieu n'échoue jamais. Celui qui m'a mandaté pour postuler a fait de diriger la RDC. Je sais que ce pays sera absolument transformé. Et si ce n'est pas fait, vous ne comprendrez pas ce qu'on entend par le miracle des dieux. Propos du candidat président de la République, Ngala Sikourisini Agré. C'était lors d'un point de presse tenu hier lundi ici à Kinshasa. Le responsable de l'église La Louange explique sa vision prophétique pour la RDC en trois concepts à savoir le relèvement, la restauration et la transformation. Il pense également à la reconstitution de l'armée. On écoute le révérend docteur Agré Ngala Si au micro des Radio Kapi.
Les gens doutent du mandat de Dieu, les gens doutent si Dieu peut parler. Notre église est témoin que Dieu, il y a quelques années, nous a demandé de déposer de l'argent au trésor public. Et l'église peut témoigner que nous avons déposé de l'argent il y a plus de 15 ans de façon prophétique. Je crois que, et je sais qu'il y a un grand travail à faire en ce qui concerne la protection du territoire national au travers de notre armée militaire. Police. Il faut reconstituer cette armée. Il faut l'équiper convenablement parce que nous savons qu'il y a une grande notion d'infiltration. Mais Dieu fera tout cela et Dieu fera plus que cela. Je suis le candidat de Dieu et je parlerai de mon Dieu dans tous les aspects qui concernent notre nation et nos élections. Soyons rassurés que nous devons tout relever. Le relèvement est d'abord prioritairement le relèvement de l'homme. Dieu n'échoue jamais et vous allez le réaliser.
Et dans la suite de la diffusion des interviews des candidats à la présidentielle de décembre prochain, Radio Kapi reçoit aujourd'hui Rex Kazadi. Le candidat numéro 10 affirme avoir été motivé par la misère de la population et la gestion chaotique du pays. Sa candidature vise à apporter un changement radical. On écoute Rex Kazadi au micro de Kéline Kouté et Michel Kifindangoy.
Je brigue la magistrature suprême, je veux que les choses s'améliorent. Lorsque je constate la gestion actuelle du pays, lorsque je constate la misère dans laquelle est mon peuple, je me devais de m'engager. Ça fait plusieurs années que je suis engagé au niveau de la société civile, mais je ne voyais pas en fait des réels changements pour l'ensemble de la population. Donc je me suis dit, de quelle manière, moi, je pourrais contribuer à un changement radical dans ce pays. J'ai vu que la présidence correspondait réellement à l'ambition que j'avais pour un changement global qui touchera un maximum de personnes. Donc je me suis engagé pour l'élection présidentielle. Jeunesse congolaise, toujours délaissée, mise à l'écart. Vous avez le 20 décembre la possibilité de vous faire entendre. Votez pour un homme qui va radicalement changer les choses. Votez pour un homme qui ne s'intéresse pas à sa propre famille et à ses propres amis ou à son propre clan. Merci. Votez numéro 10.
Vous suivrez l'intégralité de cette interview à 8h30, 15h30 et 20h, heure de Kinshasa, ainsi que sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi. Pendant ce temps au Nord Kivu, les déplacés de Kanyaruchinya et Bulengo continuent à attendre la distribution de l'aide humanitaire apportée par Moïse Katumbi lors de son passage à Goma en campagne électorale. Cette assistance constituée des 100 tonnes de vivres et non-vivres destinés aux déplacés n'aurait pas été autorisée à être distribuée dans les camps, c'est que demain un communiqué du gouverneur rendu public hier lundi. La question a suscité beaucoup de réactions depuis le week-end dans la ville de Goma. À l'issue d'une réunion hier au gouvernorat entre les autorités et la Caritas, l'équivoque a été levé et la distribution de cette aide pourrait commencer aujourd'hui, confirme les directeurs de la Caritas Goma, Sifa Maguru.
Cette assistance humanitaire avait été remise vendredi dernier à la Caritas en présence des déplacés au camp des Kanyaruchinya. Cependant, la cargaison n'a pas pu être déchargée afin d'être distribuée aux bénéficiaires. Patrick Mundeke, cadre d'Ensemble pour la République, affirme que c'est le responsable de la police en charge de la sécurité du camp des déplacés qui a refusé l'entrée de cette aide dans les sites. Dans un communiqué lu ce lundi par le porte-parole du gouverneur, ce dernier rejette les allégations selon lesquelles c'est le gouverneur qui aurait refusé la distribution de l'aide aux déplacés apportée par Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle. Pour sa part, la société civile de Nyiragongo pense que la situation humanitaire des déplacés ne doit pas être récupérée par des politiciens. Thierry Gassisiro appelle les autorités à faciliter la distribution de cette aide pour le bien-être de la population déplacée déjà meurtrie. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Sur le terrain des hostilités, une accalmie a été observée hier sur les différentes lignes de front dans les combats qui opposent les FARDC et les groupes armés aux rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. C'est notamment autour de Karenga dans le parc national de Virunga et sur l'axe Kiloli-Rwe-Kichanga-Mweso. Selon plusieurs sources locales, les hostilités ont baissé d'un cran au lendemain des combats survenus dans la matinée de dimanche autour de Kiloli-Rwe. Les mêmes sources déplorent l'installation par les rebelles du M23 d'une administration parallèle à Kichanga. Cette autre nouvelle en Ituri, plus de 7000 cas de violences basées sur le genre ont été signalés au cours du premier semestre 2023. Ces chiffres ont été publiés hier par l'expert de la division genre et famille à l'occasion du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Parmi les causes de ces violences, il évoque principalement les conflits à répétition qui affectent la province et l'impunité des auteurs de ces actes. Le point avec Marine Mamagira.
D'après la division provinciale du genre, sur les 7000 cas de violence, seulement 129 ont reçu un accompagnement judiciaire. Les types d'abus récurrents sont domestiques et liés au sexe, enregistrés surtout dans les territoires d'Irumu et de Djougou, où les groupes armés ne cessent de commettre des exactions contre la population civile. Jean-Marc Mazio pense qu'au-delà de la sensibilisation et la prise en charge, le gouvernement devrait s'activer pour le retour de la paix, mais aussi lutter contre l'impunité. Il appelle tous les activistes des droits de l'homme et ceux qui militent pour la promotion des droits des femmes a conjugué leurs efforts pendant ces 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Jean-Marc Mazio.
Pour nous, c'est qu'il est temps que nous puissions nous mobiliser. Question de lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille est une nécessité collective. Donc nous sommes en train de demander aux hommes et aux femmes. Nous devons capitaliser les 16 jours d'activisme édition 2023 pour briser le silence, apporter d'assistance aux femmes pour assurer un environnement protecteur où on va respecter la femme, on va respecter la jeune fille.
En Afrique, cette campagne est célébrée sous le thème « Investir pour prévenir la violence à l'égard des femmes et des filles ». Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Togo, selon un communiqué du Conseil des ministres publié au soir de ce lundi 27 novembre, le président de la République a instruit le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures pour permettre d'organiser les prochaines élections au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année 2024.
L'invité.
42 observateurs internationaux déjà déployés sur le territoire national par la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Reçu par Radio Okapi, le chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne revient sur la mission de ces observateurs, mais également sur le déroulement du processus. Stéphane Mandon, interrogé par René Capita.
Monsieur Stéphane Mandon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef adjoint de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et depuis quelques temps, la mission a déployé déjà 42 observateurs sur les territoires qui sont en formation. Voulez-vous nous dire en quelques mots quel rôle ces observateurs auront à jouer et surtout dans quelles zones ils seront déployés ?
Bien sûr, oui. Comme vous l'avez dit, nous avons 42 observateurs de longue durée sur le pays. Nous les déployons dans 17 provinces de la RDC. Et ils vont faire une observation assez longue du processus électoral, donc qui comprend d'abord la campagne électorale, bien évidemment le jour des élections, dans lequel ils seront renforcés par 12 observateurs de court terme, 7 membres du Parlement européen et quelques observateurs membres des ambassades des pays membres et des pays associés. Et ensuite, toute une observation qui sera faite du processus de contentieux électoral jusqu'au résultat. Et nous ferons vraiment une analyse globale de ce cycle électoral et nous ferons une déclaration préliminaire le 22 décembre dans lequel nous communiquerons une partie de nos résultats.
17 régions ou provinces couvertes sur les 26. Et qu'en est-il des restes des provinces ?
Alors, comme vous le savez, la République démocratique du Congo est un pays vaste dans lequel il y a peu d'infrastructures, donc les moyens de communication sont assez compliqués. Mais nos observateurs se déplaceront quand même de province en province dans le cadre de leur observation et dans la mesure où ils peuvent le faire. Vous savez, les moyens de communication sont assez compliqués dans ce pays, mais on va essayer d'observer un maximum de provinces possibles.
Et quels seront les axes, les grands axes de l'observation que ces observateurs auront à effectuer sur terrain ?
L'élément majeur de ce cycle électoral, bien sûr, c'est la campagne. Nous observons les événements de campagne, la communication de la campagne, la couverture de la campagne dans les médias, etc. Mais aussi, bon, le jour des élections qui est évidemment crucial, mais également la façon dont les résultats sont traités après, entre la déclaration préliminaire et le traitement du contentieux électoral, qui est une part importante du cycle électoral. Oui.
Vous avez parlé justement de la déclaration préliminaire qui sera faite le 22 décembre, mais à qui sera-t-elle destinée primordialement ?
Au peuple congolais. Nous faisons vraiment cette observation pour bénéficier au peuple congolais, aux institutions, aux candidats, à tous les gens qui ont un intérêt dans ces élections. Et notre but vraiment de cette déclaration préliminaire, c'est de mettre en exergue non seulement les difficultés qu'on a constatées, mais aussi les points positifs, parce qu'il y a eu des améliorations des élections par rapport aux élections précédentes, bien sûr.
Vous avez eu déjà à rencontrer les parties prenantes à ces élections et vous avez déjà peut-être observé un certain nombre de choses par rapport au déroulement des opérations. Avez-vous des recommandations à faire aux autorités, aux organisateurs de ces élections quant aux défis liés notamment à la sécurité, mais aussi aux défis liés à la logistique ?
Bien sûr, oui, on a vu comme tout le monde et on a entendu à travers les médias le manque de budget. La CENI a apparemment un besoin de 300 millions de dollars qui n'a pas été encore, dont la réponse n'a pas été apportée, pour laquelle la réponse n'a pas été apportée, pardon, qui va les aider à répondre à des défis logistiques. Donc il faut absolument que ces fonds soient débloqués pour qu'on puisse avoir des élections à temps. Également, dans le cadre de la campagne, nous avons vu quelques événements dans lesquels il y a eu un petit peu de violence. Et ça, on aimerait vraiment inciter les candidats à passer un message de paix. Mais c'est un message que nous aimerions aussi passer, que la population reste calme et qu'elle s'exprime par d'autres moyens que la violence, parce que la violence ne bénéficie à personne et surtout pas à la démocratie.
Est-il une action spécifique que la mission peut ou bien est en train de mener par rapport à ce qui est observé actuellement durant la campagne, c'est-à-dire des actes de violence, des propos dangereux, action menée auprès des autorités, question de tempérer le climat, question de garantir tant soit peu une issue heureuse pour ces élections?
Vous savez, un des principes de l'observation électorale, c'est de rester externe et neutre. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce que je suis en train de faire, d'essayer de passer le message à tous les auditeurs pour essayer de garder leur calme, et de ne pas exprimer leur mécontentement par la violence. Il y a beaucoup d'autres moyens de le faire. Et c'est un message que nous passons aussi aux institutions congolaises, aux candidats eux-mêmes, et que nous passons à travers les médias à tout le monde. Oui.
Monsieur Stéphane Mandon, merci.
Merci.
Notre invité s'entretenait avec René Kapita. Ainsi s'achève ce radio journal coordonné et supervisé par Pelé Kipé Lamondo. Polydor Basunga a assuré la mise en onde. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiokapi.net. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bonne suite de la matinale avec Christelle Fritimangwa.